Alors, avant d'aller à notre segment Culture Queer, d'abord, je vais vous dire que malheureusement, un de nos invités ne s'est pas présenté aujourd'hui. On n'arrive pas à le rejoindre, donc on a un petit peu de temps à remplir.
c'est peut-être à cause du métro, on ne sait jamais.
Ah oui, parce que toi aussi, tu étais
prêt. Ça a été long. Oui,
oui. Oui. Alors, Donald Bilodeau, merci d'être là.
Ben, ça me fait plaisir.
Alors, le segment Culture Queer va parler de littérature après la pause. Oui. La littérature queer. Et toi, tu es un auteur qui a publié des livres.
J'en ai publié deux.
Oui.
Et j'ai participé à un collectif avec toi, d'ailleurs, Denis oui. Martin, La fierté à une ville. Mais j'ai publié deux romans, effectivement, 2013 et 2015. Mais j'ai eu tellement de difficultés avec mon éditeur que je n'ai pas poursuivi pour l'instant. Il n'est pas dit que je ne reprendrai pas la plume. On verra.
Mais toi et moi, on fait partie des plus vieux qui avons publié de la littérature spécifiquement queer et à une époque où c'était plus difficile de trouver des éditeurs parce
Tout à
que
fait.
La thématique était compliquée.
Était compliquée.
Ah, c'était difficile de les convaincre de nous publier.
Oui, ça a été très difficile. Si on avait été en Europe, peut-être en France, avec un plus gros lectorat, peut-être, mais au Québec...
Mais encore.
Ouais. Mais j'ai trouvé ça difficile comme... Mais quand même, bon, on est arrivé, on a participé au Salon du livre, on a fait le Salon du livre avec toi.
Le Salon du livre de Montréal.
De Montréal, mais de la fierté aussi.
Ah oui, c'est la troisième édition.
Littéraire. Ouais. Ensuite, au mois d'août, durant le... Voyons, la fierté littéraire. Où on fait la fierté littéraire. Donc, ça, c'est agréable parce qu'on rencontre d'autres auteurs aussi, souvent qui publient de façon indépendante. Ouais. Mais oui, c'est une belle expérience.
Oui. Et donc, il y a le Salon du livre de Fierté littéraire. On vient de finir le Salon du livre de Montréal et puis ça, Fierté littéraire arrive avec son... Et la différence, c'est que là, c'est vraiment de la littérature queer, mur à mur.
Oui.
Ça va être... Ouais. Et toi, tu as des invités spéciaux que tu aimerais ou des auteurs spéciaux que tu as le droit de rencontrer à ce salon?
Ah, pas vraiment. Moi, je pense que tout m'intéresse, en réalité. Il y en a, malheureusement, comme là, moi, je vais vous parler aujourd'hui, plus tard, d'une autrice qui est décédée.
Oui.
Je vais vous parler d'un de mes amis qui vient de publier toute une brique. Mm-hmm. Mais non, tous les auteurs m'intéressent, en réalité.
Moi, je lis à peu près 80 à 100 livres par année, c'est clair. Puis par bout, des fois, je me dis « Ah oui, j'ai déjà lu ça, je ne m'en rappelais pas.
» On a une belle relève, Nicolas Giguère, Kev Lambert, etc. Tu sais,
Nicolas Dawson aussi, que j'aime beaucoup.
Je n'ai pas tous en tête, là. Mais,
on va rencontrer, on a quelques invités tout à l'heure à Culture Queer. Sadaka Araniva Inès, qui est une poétesse, qui d'ailleurs est en nomination pour un prix des libraires. On va révéler ça tantôt avec elle. Alors, ça va être après la pause, après notre petite pause, ça va être le segment Culture Queer. Et c'est le segment Culture Queer.
Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Mais oui, c'est le segment Culture Queer et aujourd'hui, on fait un spécial Salon du livre de fierté littéraire parce que ce week-end, le 7 et le 8 décembre, c'est le Salon du livre de fierté littéraire. Alors, nos invités aujourd'hui, nos collaborateurs culturels, Brian Saint-Louis qui est à Québec. Salut Brian!
Bonjour tout le monde!
Et Donald Bilodeau ici à Montréal.
Bonjour tout le monde!
Et je suis allé chercher d'autres invités. L'autrice Sadaka Araniva Inès, salut!
Allô!
Alors pourquoi je l'ai invitée? Pour deux raisons, parce qu'elle anime une table ronde et aussi... Ton livre est en nomination pour un prix des libraires. Félicitations!
Oui, merci!
Alors pourquoi je regarde la porno?
Je regarde la porno quand je suis triste.
Est-ce que tu es triste aujourd'hui?
Non. Je pense qu'il y aurait un problème si j'étais triste.
Et je reçois aussi la personne sous la barbe du drag king Fabien Lhumour, qui est une personne. Donc, est-ce qu'on doit donner ton nom ou on garde ça comme...
Pourquoi pas?
Ouais. Alors, Félicia Latour, bienvenue à l'émission.
Bonsoir, merci.
Ah, je voulais te dire, moi, je suis épaté par la photo que j'ai vue de Fabien Lhumour. Vraiment, c'est extraordinaire le maquillage. Ça te prend combien de temps à faire ça?
Ça, c'était mon numéro de Vincent Van Gogh. Donc, je me suis vraiment donné le défi de maquillage, de peinturer ma face de son style. Normalement, mon maquillage n'est pas comme ça, mais ça m'a pris au moins 2 heures.
Oh, puis la barbe
Pour une
et
performance
tout.
De 4 minutes.
Oh my God!
Ça vaut la peine, hein?
Ah, bien écoute, on est très contents de te recevoir. Et mais pourquoi on reçoit? C'est parce que Fabien Lhumour va faire une lecture, une heure du conte pour les enfants. Et nous sommes le premier organisme, je vais le dire, je vais nous vanter, Fierté... Ah oui, je parle de nous, parce que j'ai oublié de déclarer que je suis directeur artistique de Fierté littéraire, mais je suis capable de porter deux chapeaux, mais pas en même temps. Fait que faites-vous en pas. Là, présentement, j'anime, je ne porterai pas le chapeau de la direction. Mais, mais donc, Fierté littéraire, quand même, c'est le premier organisme à présenter des ordres du conte en français lu par un drag king. C'est la deuxième fois que ça se fait. Et c'est la première, c'est le premier organisme dans la francophonie. C'est quand même pas rien. Et la directrice de la, de la production de Fierté littéraire, Carole B. Thomas.
Salut, salut.
Salut tout le monde. Salut toi. Alors, et je vais le dire, une alliée de nos communautés. On est très contente d'avoir avec nous, comédienne de formation, qu'on voit sur scène assez régulièrement. J'ai oublié de demander quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
Félicia, elle est accord féminin ce soir.
Si on parle à Fabien, c'est il, c'est ça?
C'est ça. C'est ça, l'alter ego.
D'accord. Et puis, je ne me trompe pas, c'est IL avec toi, Sayaka, et il avec Donald et Brian. Ben, allons-y. Donc, je le répète par transparence. Oui, je suis le directeur artistique de Fierté littéraire et j'anime une émission de radio ici à Canalem. Et je pense que l'émission... est une émission LGBT, je pense qu'on peut se permettre de parler du Salon du livre queer sans... Alors, on va présenter le Salon du livre, Carole. Je pense que ça va aller à toi tout de suite.
Parfait.
On va parler de la programmation.
On a des beaux cadeaux.
OK, allons-y.
Ça c'est vraiment deux journées remplies. Samedi et dimanche, on commence à 10h30 avec les heures du conte pour nos tout jeunes. Mm-hmm. Donc, samedi, on a avec nous la drag queen Barbada. Mm-hmm. Et dimanche, à 10h30 toujours, nous avons avec nous le drag king, Félicia Lumour.
Fabien Lumour, Félicia de la Tour.
Je sais que c'est mêlant.
Il faudrait peut-être que je lise mes notes.
Mais pourtant, tes notes devant toi, c'est peut-être les lunettes qui sont plus bonnes.
Je ne lisais pas, je regardais.
Ah, c'est ça.
Pour voir que, sa réaction. Ouais. Bon, après ça, à midi les deux jours, on a des entrevues. Mm-hmm. On a en premier samedi, c'est Denis Martin lui-même avec Moira Ouachtechkon-Bacon, Bacon.
Oui.
Par après, ses prescriptions littéraires.
Oui.
Et dimanche, c'est encore rencontre avec Denis Martin et Michel Doré. Mm-hmm. Et par après, ses prescriptions littéraires. Et ensuite, les deux journées, on a des tables rondes à partir de 2h30. La première table ronde samedi, écrire queer de la classe. Un très bon sujet. Samedi, c'est animé par Sayaka qui est avec nous aujourd'hui. Elle a deux invités, Dali Giroux et Benoît Jaudouin. Dimanche, la table ronde, le sujet est écrire queer, ça parle toujours de soi.
Avec un point d'interrogation, tu l'as bien fait, oui.
Ouais, un très bon sujet, ça aussi. Ça va être animé par Denis Martin lui-même. Et ses invités sont Gabriel Cholette et Alex Vien. Mmh. Et pour clôturer samedi, à 16h, on a le lancement du livre de Élise Martin aux éditions TNT. Le titre, c'est « J'avale votre absence ». Et dimanche, pour clôturer, à 16h, nous avons Pascale Cormier, qui est l'animatrice de Transpoésie. Ses invités sont Gabriel Bouliane-Tremblay, Roxane Nadeau, Jean-Baptiste Leduc. Voilà,
c'est
bon
bien
monde, rempli.
Oui, alors, juste pour vous dire que pourquoi on fait un lancement de livre à Fierté littéraire, c'est que c'est la personne qui a gagné Queer Academy en 2022.
Exact.
Et le prix est un contrat d'édition.
Exact.
Donc, c'est un recueil de poésie que j'ai lu, d'ailleurs. C'est très, très beau. Alors, on recommande tout ça.
Oui.
Ben là, c'est le temps de faire un petit tour de table.
Ah, attends, en plus, on a aussi tous nos auteurs, autrices,
auteurs,
merci, qui va nous montrer leurs livres. Donc, on a plusieurs tables, plusieurs invités. On a la librairie Lugelion, ainsi que les éditions TNT et
Triptyque.
Qui va être parmi nous. Donc, on peut regarder, faire les curieux et peut-être sélectionner des livres à acheter.
Oui, c'est Noël qui s'en vient, c'est le temps.
Oui, c'est le temps.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver là les auteurs ou des auteurs, des autrices, des auteurs queer. Il y en a au Salon du livre de Montréal, mais il faut, faut naviguer là-dedans.
Ils ne sont pas nécessairement non plus vraiment mis en valeur. Par exemple, on dit de Montréal, je pense pas autant que ça, parce que c'est une énorme machine. Là. Ouais. On s'entend, il y a tellement de livres. Donc, je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Carole. C'est bien qu'il y ait un espace vraiment dédié à ça pour que les gens puissent se retrouver partout, pas juste dans un petit endroit, dans un petit coin, mais partout autour de
tous les auteurs, auteurs qui seront là seront des personnes de nos communautés.
C'est ça, exact.
C'est ça. Alors, vous n'allez pas vous tromper.
On peut leur parler de vive voix. Ils seront là.
Oui. C'est mieux que de commander sur Amazon.
Exact.
Bon, alors le message est passé. Ben, j'aimerais vous poser une question, puis je vais peut-être lancer là-bas. Je vais faire un tour de table. J'aimerais que... C'est quoi la littérature queer?
Oh mon Dieu.
Ça y est, cœur.
Je voulais lire une citation d'un texte de Nicolas Dawson, en fait. Je me demande si j'ai-tu le droit de faire ça?
Ben oui.
Parce que je l'ai.
As-tu
je peux faire ça. Sur ce que c'est pour moi la littérature queer.
Tant que c'est un extrait, je pense qu'on peut lire un extrait. C'est pas, ça va pas à l'encontre des droits d'auteur.
Parfait. Ben, dans le fond, c'est tiré de Désormais ma demeure, à la page 93, qui est un livre de Nicolas Dawson, qui dit « L'espoir queer ne nie pas les souffrances à l'origine de nos récits. Il tient dans la possibilité de manipuler ces souffrances, de les remodeler et de les réinvestir à l'intérieur de formes qui nous sont propres. » Portés donc par cet espoir queer, nos fêtes scintillantes célèbrent autant notre fierté et notre visibilité que nos différences, nos mauvais souvenirs, nos terreurs nocturnes, nos traumas, nos maladies, nos morts, nos deuils et nos luttes. Nos fêtes ne réduisent pas au silence les douleurs qui nous poursuivent.
Ouh, ouais, hein?
Et moi, j'ai vu ça aujourd'hui, puis parce que je me demandais, pour moi, c'est quoi la littérature queer? Et bon, moi, j'ai été éditée par Nicolas Dawson en plus. J'ai eu la chance pour mon recueil d'être éditée par l'unique et le seul Nicolas. Et ça a toujours été pour moi un exemple vraiment de ce que c'était la littérature et comment ça se manifestait comme subversion à l'intérieur même du milieu littéraire québécois. Donc, pour moi, c'est vraiment ces espèces de fêtes radicales où on ne nie pas nos souffrances. En fait, on fait la fête avec elles. Donc, pour moi, c'était vraiment... C'était ça.
Ma chère alliée, Carole B.
Oui.
Comment tu définirais, toi, la littérature queer?
Très intéressant.
Oui.
Très eye-opening. Oui. Comment on dit eye-opening en français?
Ça ouvre les yeux.
Ça ouvre les yeux.
Oui, parce qu'il y a tellement de choses que moi, comme comédienne, que j'ai besoin d'apprendre. Et j'adore la découverte. Ça va être ma première fois de voir un drag queen live. Des drag queens, ça fait 20 ans, mais un drag king, ça va être ma première fois. Fait que je trouve ça génial. La littérature, c'est une belle découverte. Les écrivains, c'est du bonbon. Mmh. C'est génial d'avoir cette opportunité-là, avoir toutes ces personnes-là dans un même lieu, puis d'être capable de partager et d'apprendre. Je trouve ça génial.
Puis à Fédé littéraire, on a engagé Carole pour être directrice de production pour ses compétences, mais on s'est dit pour son ouverture aussi. Écoute, as-tu déjà joué un personnage lesbienne ça, ou pas encore?
Oui, au Fringe, il y a une vingtaine d'années, je faisais la femme de Martina Navratilova.
Navratilova.
Yes, ouais. Thank you. Je faisais sa blonde.
Ah oui.
Donc, il fallait que je l'embrasse et tout. Et ça s'est super bien passé. Je me suis bien amusée.
I kissed a girl.
Ah oui.
Fais attention, hein. Félicia,
oui.
Qu'est-ce que c'est la littérature queer pour toi?
Pour moi, c'est autant les autrices que le public, que les thèmes. Mm-hmm. Les thématiques. Et j'ai beaucoup aimé la citation que tu as partagée, Sayaka. Et pour moi, j'irais peut-être un peu plus loin que Nicolas Dawson, en tout respect, mais parce que de ce que j'ai compris, oui, on peut parler de nos luttes et de nos souffrances, mais aussi de nos fiertés, de nos joies. Je suis beaucoup dans la joie queer ces jours-ci. Puis j'aime aussi penser que en dehors des communautés LGBTQIA, 2S+,
oui.
Yeah.
On peut queerer. J'aime beaucoup le mot queer en tant que verbe, surtout en anglais. Comment on peut redéfinir ce que ça veut dire la normativité dans la façon d'élever nos enfants, dans la façon de consommer, dans la façon de penser à notre système de justice. Et j'adore la littérature qui, oui, va peut-être me parler d'histoires inspirantes de nos communautés, mais peut-être qu'il va me challenger sur une façon de penser que j'avais pris pour acquis.
Wow.
Un système.
C'est la révolution.
Voilà.
Queer.
Voilà.
C'est bon. Donald.
Ben moi, je seconde pas mal Carole sur ce qu'elle a dit. Et en tant que gay plutôt âgé par rapport à la moyenne d'âge ici...
c'est moi qui ai le plus vieux ici.
quand j'étais jeune, disons dans les années 70-80, il n'y avait pas énormément au Québec de littérature gay. Il y avait Michel Tremblay, on avait quelques auteurs comme Yves Navarre ou autres.
Mais c'est surtout la littérature des hommes, il n'y avait pas beaucoup de littérature de femmes.
Non, il n'y avait pas de littérature.
Puis oublie les littératures des
puis la littérature d'hommes, c'était très dramatique. Ça finissait
tout le monde
toujours...
mourait à la fin.
C'était très, très lourd, comme Yves Thériault, celui qui a écrit Agagouk, là, qui avait écrit Le partage de minuit, un livre, tu finis, tu veux te suicider, c'est terrible. Alors pour moi, la littérature queer, c'est une ouverture sur le monde, puis sur des nouvelles générations et sur la liberté. Pour moi, c'est le mot liberté que je retiens de ça.
Brian, c'est quoi pour toi la littérature queer?
Bon, tu me fais passer après tout le monde, alors on a tellement des belles réponses.
C'est parce que t'es le meilleur de tous, c'est notre chroniqueur littéraire. Alors c'est pour ça que j'ai dit je vais donner la chance aux autres, là, parce que je savais que t'étais pour tout avoir les bonnes réponses. Allez, on y va, j'étais assez léché. Là.
Non, mais la littérature queer ces temps-ci, c'est juste bien qu'il y en ait autant et que ça se retrouve de plus en plus dans les... dans la littérature populaire, dans la littérature grand public, que ce soit de plus en plus accessible. Les gens, avant, ben justement, comme disait Nana, n'avaient pas nécessairement accès à ces choses-là. Et puis c'est bien de se voir représenté dans la littérature d'un peuple, c'est important. Les gens vont lire ça, vont se reconnaître dans ces histoires-là. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir toutes sortes d'histoires, que ce ne soit pas justement que simplement des couples hétérosexuels tout à fait normaux. De la même façon qu'on est heureux de voir des séries gays, des films, de se voir représenter, ça montre qu'on fait partie de la société au même titre que tout le monde, qu'on existe, qu'on est là, qu'on a des histoires, qu'on a des drames, qu'on a des choses. Donc, la littérature à ce titre-là, c'est bien qu'on puisse maintenant retrouver autant de plumes pertinentes, avec des histoires intéressantes, des grands écrivains aussi, parce que parfois, c'était seulement le fait que c'était un thème gay qui faisait que c'était publié. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des très bonnes plumes. C'est de qualité ce qui est produit maintenant. Beaucoup au Québec, Nicolas Dawson, justement, avec sa collection, montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de place et de plumes. Donc voilà, moi, je suis très content de voir qu'autant de monde se retrouve dans ces livres-là.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Wow, on a beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'auteurs autour de la table et aussi de personnes qui aiment la littérature. Là, j'aimerais ça peut-être qu'on parle de cette fameuse heure du conte, hein, qui est assez controversée pour certains. Moi, je trouve pas, là, mais pour certains et certaines, ça l'est. Fabien, l'humour, Félicia Latour, c'est la première fois que tu vas faire ça?
Oui, ça va être ma première fois. J'ai déjà fait un événement pour la Coalition des familles LGBTQ+, justement quand cette controverse avec la pétition du Parti conservateur menée par Éric Duhem pour bannir l'heure du conte avec les dragues est sortie. Et la Coalition voulait être solidaire avec les dragues, donc j'ai fait un événement pour eux. C'était vraiment le fun. Et dans une autre vie, j'ai travaillé dans une garderie à Berlin. Alors, j'adore les jeunes, j'adore les tout-petits. Alors, je me suis déguisée en Gaston de La Belle et la Bête. On a eu bien du fun ensemble. Alors, ça va être similaire, mais avec ce côté littéraire.
Est-ce que tu peux nous donner un petit scoop? Tu vas t'habiller comment? Ou c'est pas décidé encore?
Ben, c'est à moitié décidé. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai beaucoup de kings autour de moi à Montréal qui sont des très bons costumiers. C'est pas ma force, je l'avoue. mon ami Hercules Lees, quand il fait des événements avec les enfants, c'est Hercules Sneeze. Et il m'a prêté un très beau complet jaune velours, un peu à l'Est au Pays des Merveilles.
Wow!
Voilà le look. Ouais. Wow.
Parce que c'est vrai que nous, on a changé ton nom aussi pour les enfants parce que tu fais ton nom de drag king dans les spectacles, c'est Fabien Lamour.
C'est ça. Au Mado, on me connaît plutôt par Fabien Lamour. Et Et c'était l'idée de mon père. Ouais. C'est parce que son frère s'appelle Fabien Latour. Il se faisait toujours niaiser quand il était jeune. « Hey, Fabien Latour, est-ce que tu fais bien l'amour? » Bref, quand je suis devenue king, mon père m'a donné cette belle idée-là. Mais pour les familles, je pensais que ça serait un peu plus approprié d'être Fabien Lumont.
Oui, oui, oui.
Génial.
Oui. Sayaka, toi, t'animes une table ronde.
Oui.
En fait, l'idée que j'avais lancée quand je t'ai demandé de la faire, c'était, c'est le fun de parler de transfuge de classe. Parce qu'il y a, parfois, quand on fait une sortie du placard, moi, je peux vous le dire, je l'ai fait... Il y a comme aussi un transfert de classe qui se fait, un transfuge de classe qui se fait. J'ai été longtemps, moi, j'ai eu honte de ma famille, j'en parlais pas trop.
Mais je pense qu'on veut surtout déconstruire cette notion-là, parce que là, on l'a vu, les gens pensent qu'il y a comme un boom en ce moment de la littérature de transfuge de classe, mais les enjeux de classe ont toujours affecté tout le monde tout le temps. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ce qu'on a écrit, mais on peut pas non plus nier que la littérature comme institution est bourgeoise. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment radical dans l'insertion ou dans comment assumer les enjeux de classe, comment ça nous a affectés, puis comment ça se transpose dans ce qu'on écrit. Donc, je pense que je connais notamment Benoît et Dali. On est tous des personnes assez militantes, assez radicales aussi dans nos opinions. Donc, je pense qu'on va plutôt venir décortiquer cette notion. Puis pourquoi peut-être certaines personnes n'adhèrent pas nécessairement à cette identité de transfuge de classe, malgré le fait d'écrire à partir de ces enjeux-là. Je pense qu'on va aussi aborder des éléments intersectionnels par rapport à nos écritures, par rapport à comment on a vécu nos vies. Moi aussi, j'ai jamais fait de coming out à ma famille, là, personnellement. Là, mes parents ne savent pas. Ils ne vont pas le savoir. Mais c'est pas tant une question d'enjeu.
Mais là, tu es à la radio, est-ce qu'ils écoutent la radio?
Non. Puis en plus, j'en ai parlé souvent, mais quand mon livre est sorti, j'ai eu une entrevue avec Samuel Larochelle dans le magazine Fugue, qui est comme le magazine du village. Puis moi, je me suis dit, oh non, mes parents, ils vont jamais... Mon père, il travaille en construction. C'est pas son milieu. Ma mère, elle travaille dans une clinique de dentiste. Puis ses deux boss sont gays. Fait qu'eux, ils font venir la revue Fugue dans la salle d'attente pour que les gens puissent lire la revue. Mais moi, je le savais pas. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait le magazine Fugue dans une clinique de dentiste dans Rosemont. Et là, ma mère, elle m'appelle. Puis elle me dit, pourquoi t'es dans un magazine de gays? Puis là, moi, c'est là où... Là, elle m'a expliqué qu'elle avait eu la revue, puis que là, c'est ses collègues qui lui ont dit, regarde, ta fille est là-dedans. Là, j'ai dû lui dire, ah, oh, mais tu sais, c'est parce que je travaille à Le Guélion, c'est dans le village. Tu sais, il a fallu que je trouve, tu sais, encore aujourd'hui, je dois mentir, masquer, mais tu sais, ça fait juste partie de ma réalité, mais c'est pas tant lié aux enjeux de classe. Tu sais, encore là, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des lunettes intersectionnelles, parce que même si on a grandi dans la pauvreté avec mes parents à l'époque, c'est surtout des enjeux culturels qu'il s'agit, là. C'est plus, et peut-être même religieux aussi, là. Donc, je pense que c'est plus comme là-dedans. Mais on veut vraiment, je pense, avec Dali et Benoît, aborder toutes ces choses-là qui sont intrinsèques, pas juste les enjeux de classe, mais c'est sûr que ça reste central à la discussion parce qu'on est tous sensibilisés par rapport à ça.
Oui, puis moi, je vais aborder la question de ce qu'on appelle l'autofiction. On lit pas pendant qu'on conduit une auto, là, on s'entend, là, mais on est... est-ce que c'est toujours à propos de nous? Puis c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup des romans qu'on écrit sont des romans initiatiques, où c'est souvent ça qui se retrouve. Alors, ça va être un peu dans la discussion, puis souvent, je me dis, c'est une excuse pour parler de littérature queer, on trouve des thèmes, puis on travaille autour de ça. Je pense que chacun d'entre nous avons des coups de cœur littéraires, puis je pense que je vais commencer à Québec, tiens. À Québec, avec Brian, tes coups de cœur littéraires, parce qu'on s'était dit que tout le monde parlerait d'un ou deux romans ou un ou deux livres.
Oui, ben moi, je vous parle de romans tous les mois, donc je peux vous parler de mes deux dernières lectures, peut-être. Je ne sais pas si c'est mes coups de cœur, mais c'est deux romans importants de cette année quand même, donc ça fait du bien qu'on en parle. Je vais commencer avec Toby Lachmacher, Ma sexualité en toutes lettres, paru chez La Peuplade. Oui, ça cueille, oui, de la fin. Ça ressemble justement un peu au recueil de poésie que vous avez écrit. C'est une écrivaine néerlandaise une écrivaine, je vais utiliser le « L » parce qu'au moment où elle écrit le livre, elle s'appelle Sophie et maintenant, elle s'appelle Toby. Donc, on devine un petit peu c'est quoi le punch de ce roman-là. C'est un roman de transition, une écriture où elle explique... Elle raconte son histoire, une écriture très frontale. On est vraiment très direct. Il n'y a pas de quatrième mur dans ce livre-là. On s'adresse directement au lecteur. On lui raconte son histoire. Elle va nous parler de ses histoires d'amour, ses relations sexuelles. On n'est pas graphique, là, mais on est dans les relations de corps. Et là, Toby Lachmacher nous explique comment, quand elle était une femme, comment ça se passait, ses relations. Elle a eu des relations avec des hommes. Après ça, elle est passée aux femmes. Après ça, ça a toujours été des femmes, comme elle explique. Et il y a toujours quelque chose quand même qui ne fonctionnait pas dans ces relations-là. Et là, plus le roman avance, plus on comprend qu'est-ce qui cloche. Et à un moment donné, elle explique à la fin, puis c'est d'ailleurs ce que le punch du livre nous disait avec son changement de nom, c'est qu'à un moment donné, elle fait le choix d'être moins fille et plus garçon. Donc, elle va habiter dans cette espèce d'univers flou-là. Et c'est super intéressant. Il y a beaucoup de références très néerlandaises, justement. On va marquer beaucoup de joueurs de football néerlandais, d'animatrices de télévision néerlandaises. C'est très dépaysant, mais une écriture très frontale, très directe. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent avec ce ton-là. Ben, une femme qui est maintenant devenue un homme. Mais lecture intéressante quand même, c'est La Peuplade qui a décidé de publier ça en français, Ma sexualité en toutes lettres. Donc, fort intéressant ce livre-là quand même, qui est paru il y a quelques semaines.
Mais là, toi, tu vas nous parler du titre oui. pour le temps des fêtes pour décembre?
Oui, il faut le lire au mois de décembre. Kev Lambert, Les Sentiers de neige, lui, c'est chez Héliotrope. Kev Lambert, qui était... lui aussi, il a changé de nom. Avant, il s'appelait Kevin. Maintenant, il s'appelle Kev. Son troisième roman, Prix Médicis, Prix Décembre, Prix Ringuet. On l'attendait vraiment avec ce nouveau roman-là pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Il change encore une fois de façon d'écrire, de propos. Il nous offre un roman initiatique, une espèce de rite de passage que vont subir deux adolescents. Il y a Amy Anne, qui est une jeune adoptée. Il y a Zoé, qui est un jeune garçon qui se cherche. Et là, il va nous faire une espèce de fable de Noël où les deux vont partir dans des sentiers de neige. Ça ressemble à un jeu vidéo. La frontière entre le réel et le fictionnel est excessivement floue. C'est un roman initiatique. On sent les questions qui vont avoir à peser. C'est un très long roman aussi. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai aimé ça, plus vers la fin. J'ai trouvé que c'était un peu long avant que l'action vraiment démarre et qu'on embarque vraiment dans cette histoire-là. Il y a des punchs qu'on voit un peu venir. Il utilise la symbolique du masque qu'on a déjà vu chez Mishima, qu'on a déjà vu chez Christopher Frank, par exemple. Donc, il n'y a peut-être pas énormément de nouveaux, mais quand on le termine, c'est une œuvre touchante, c'est une œuvre intéressante, mais ce ne sera peut-être pas un coup de massue littéraire aussi fort que l'était son précédent, par exemple, qui avait une portée beaucoup plus universelle. Là. Mais on est dans une famille de Noël vaguement raciste, vaguement homophobe du temps au Saguenay au début des années 2000. Donc, des propos très actuels quand même là, qui vont intéresser beaucoup de monde.
Bien, merci. Allons voir peut-être d'autres coups de cœur, Donald.
Oui, moi j'en ai deux. J'ai deux coups de cœur.
Puis il nous reste à peu près cinq minutes,
donc
on va y aller.
On va essayer d'aller vite. Anne Robinson, que nous connaissons tous les deux, Denis Martin, on l'avait rencontrée. C'est avec regret que j'ai appris qu'elle est décédée le 25 avril 2022. Alors, elle a écrit un roman magnifique qui s'appelle « Et si j'en étais » paru au Vent d'Ouest, aux éditions Vent d'Ouest. Je vous lis rapidement le début de la quatrième de couverture qui dit... Île d'Orléans, fin des années 80, fraîchement divorcée et mère de quatre enfants, la narratrice goûte les plaisirs du célibat lorsqu'au détour d'un colloque féministe, l'amour se présente à nouveau, cette fois sous les traits d'une femme. L'onde de choc est si puissante qu'elle l'oblige à affronter ses peurs, sa famille et son entourage professionnel pour assumer ses nouvelles préférences sexuelles. Alors, Anne Robinson, j'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est très tendre, c'est très bienveillant. Quand elle parle de ses enfants, elle ne les nomme pas. Elle va parler de sa première fille.
Ouais.
Elle l'appelle avec un P majuscule puis un F majuscule. Première fille, deuxième garçon, dernier-né pour son plus jeune fils. Donc, elle parle de sa vie, de son entourage, mais en englobant tout son monde, mais sans les nommer. Alors, il y a quelque chose d'enrobant dans son écriture. C'est très, très doux. C'est très, très...
Avant d'aller à ton deuxième, on va aller à Félicia. Oui.
Voilà.
Salut. Mais je vous parle d'un livre qui est sorti en 2005. Oh, alors, oui. Ça fait quand même longtemps, mais ça va être un des livres que je veux lire à l'heure du compte. C'est « Et avec Tango, nous voilà trois » de Justin Richardson et Peter Parnell, image de Henry Cole, apparue avec Rue du Monde. Et c'est une histoire vraie de deux manchots au zoo de Central Park à New York, deux mâles qui étaient de meilleurs amis, puis ils regardaient les autres couples de manchots dans le zoo, ils étaient un peu jaloux. Pourquoi, tu sais, les mâles et femelles ont des bébés, puis nous, on n'en a pas un? Puis finalement, un employé du zoo... a choisi de leur donner un œuf d'extra d'un couple qui ne pouvait pas le couver. Puis ces deux pingouins mâles ont réussi à avoir leur propre bébé. Et c'est une très belle histoire. Il y a même des photos des vrais manchots qui sont malheureusement décédés maintenant. Mais c'est une très belle histoire. Puis je pense que les enfants vont aimer les illustrations d'animaux parce que moi, j'aimais ça.
Il ne nous reste plus de temps, mais on va juste voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va avoir un coup de cœur?
Ben moi, je suis libraire, donc je peux faire ça vraiment vite. Il y a un livre qui s'appelle Paradise Rot que j'ai lu récemment. Puis ça, c'est Pourriture, lesbien, amour dans une maison délabrée, pisse. Après ça, j'ai un autre livre qui s'appelle Salope, qui est une traduction de Denise Cooper. Qui, dans le fond, c'est site d'escorte, trash, tous les trigger warnings, mais vraiment incroyable. Et les deux, je pense, iraient dans la thématique de horreur.
Bon.
Oui. Ben, nous, Fierté littéraire, on est très fiers de vous accueillir tout le monde au Salon du livre ce week-end.
À la Comédie de Montréal.
À la Théâtre La Comédie de Montréal, 11-13 boulevard de Maisonneuve-Est, samedi et dimanche de 10h à 5h.
Mais moi, je vais vous recommander de Valérie Beau, Partir, un roman absolument génial où c'est une personne qui est une femme lesbienne qui fuit la Syrie. C'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant, c'est très touchant. C'est publié en France, mais bon, on peut le trouver en ligne. Écoutez, oh mon Dieu, on arrive à la fin de l'émission. Je vais remercier toute l'équipe, tout le monde d'avoir été là. Je n'ai pas le temps de vous nommer. Je vais remercier quand même Maurice Bolduc à la mise en onde et toute l'équipe de recherche de Fierté, de mon Dieu, je mêle toutes les choses.